Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle.
Messieurs, mesdames, bonjour. Merci d'écouter Radio Okapi. Nous parlons aujourd'hui des techniques de chasse chez les Houndé, une tribu du Nord Kivu. Dans nos écoles primaires, nous avons tous appris que nos ancêtres vivaient de la chasse et de la cueillette. De la manière dont les enfants jusqu'aujourd'hui retiennent mentalement cette phrase, on pourrait croire que c'était des activités simples qui allaient de soi. Mais un chercheur s'est penché sur les techniques de chasse chez les Bahoundé, des techniques bien élaborées. Des catégories de chasse, aux champs pendant la chasse, jusqu'aux interdits liés à la chasse, le professeur Boutoua Balingéné nous invite sous les baobabs pour écouter comment nos ancêtres organisaient l'activité de chasse. Je suis Rosalie Masikazawadi, je vous souhaite la bienvenue à côté de notre invité.
Radio Okapi.
À Goma. Sur 95.5 FM.
Okapi.
Professeur Boutoua Balingéné, bonjour.
Bonjour, madame.
Aujourd'hui, nous parlons de votre livre « La chasse chez les Bahoundé, catégorie et processus de communication », un livre publié en 2017. Avant tout, est-ce que vous avez déjà chassé comme chasseur dans les villages?
Non, madame Rosalie, je n'ai jamais chassé, mais les informations que j'exploite ici, je les ai eues à travers les sages, les vieux du village, et c'est un sujet qui m'a vraiment intéressé.
Quelles sont les catégories des chasses chez les Houndé?
Ce que je dis ici, c'est aussi exploité chez les Banyanga, les Batembo, dans la région ici, au Nord Kivu. En fait, les catégories de chasse que nous avons eu à découvrir, il y a par exemple la chasse au Bukira. C'est ce qu'on appelle en français la chasse au filet. Il y a le Bushandabi ou la chasse à court où on poursuit l'animal. Il y a aussi la chasse au fusil. Mais aussi, il y a une chasse spéciale, la chasse au crabe.
Alors, vous pouvez un peu nous expliquer ces différentes catégories de chasse et comment elles étaient utilisées. Par exemple, avec quels animaux on chassait par filet, par poursuite?
Le filet, le Bukira, comme on l'appelle chez les Bahoundé, c'était une chasse où on utilisait le filet. On chassait par exemple les chimpanzés, les bambouins, les singes. La technique consistait à encercler le lieu où se trouvent ces animaux. Notamment, les gens viennent placer, ils identifient d'abord où l'animal ou bien les animaux ont passé la nuit et ils encerclent ces lieux-là. Et le matin, très tôt, ils se réveillent pour débusquer les animaux. Et pendant que l'animal est en train de s'enfuir, il est pris par le filet et c'est là que le chasseur vient avec sa lance et commence à tuer l'animal. Mais je vais dire quelque chose sur le Bukira, le filet, comment est-ce qu'on le gardait? Le Bukira ne pouvait pas passer la nuit dans une maison. Quand on rentre de la chasse, on ramène le Bukira et on le gardait soit à l'entrée de la maison, soit à l'entrée de la maison qu'on appelle véranda, la maison des hommes. Mais on ne pouvait pas avoir une chambre où l'on garde cet outil-là de chasse.
Il est individuel ou il est pour toute la communauté?
Non, le Bukira est individuel, mais il est loué par la communauté. Quand quelqu'un a déjà tissé son filet-là, les gens viendront louer et lui va gagner quelque chose. Ou bien lui, avec sa famille, il va chasser avec ça et il va gagner des gibiers, et ainsi de suite. Mmh. Donc la chasse au Bukira, c'est une chasse qui est collective. On ne pouvait pas faire ça individuellement. Oui. Même les femmes, pour débusquer, font beaucoup de bruit pour que l'animal puisse quitter là où il s'est caché. Mmh. Et les femmes aussi participent, même les enfants, pour faire beaucoup de bruit. Mmh. Et là, on débusque l'animal qui fuit et il est attrapé par le filet.
Il y a, à part la chasse au filet, au Bukira, il y a là où les chasseurs poursuivent les animaux.
Oui, c'est ce qu'on appelle le Bushandabi. Et là, c'est vraiment très technique. Cette chasse à court compte deux grandes catégories d'acteurs. Les acteurs humains, les chasseurs, et les acteurs animaux, parmi lesquels le chien et l'animal lui-même qu'on est en train de chasser. Et les outils en rapport avec cette chasse-là, il y a la lance, la machette et parfois aussi le couteau. Mais j'ai oublié une autre catégorie de chasse, madame, je m'excuse. Il y a le bouteille. Le bouteille, c'est le piégeage, où l'on va piéger l'animal. Et là aussi, c'est une chasse qui est très très spéciale parce qu'il y a plusieurs catégories. Par exemple, il y a le kakunda. Le kakunda qui est le piège à lacet coulant. Ce piège-là a trois parties. Il y a une tige qu'on plie et il y a une sorte de corde là qu'on va lier à une partie qu'on appelle le bikunda. C'est-à-dire, ils ont leur technique pour que c'est ce morceau de bois-là qui est plié ne puisse pas se déclencher avant que l'animal ne piétine le dispositif qu'ils ont placé là où passe l'animal, le mueha. Ils appellent ça mueha. Là où passe l'animal, c'est ce qu'on appelle le mueha. Quand l'animal va piétiner ce dispositif-là, et directement le morceau de bois plié là-bas, va se déclencher et l'animal sera pris dans le nœud qui est coulant. Il y a aussi un autre piège plus ou moins grand qui est comme une caisse qu'on appelait le kakumbi. Le kakumbi est comme une caisse. Ils mettent de part et d'autre sur les mueha, ils mettent de part et d'autre des piquets, des sticks qui sont un peu courts pour permettre à l'animal d'entrer justement vers là où ils ont mis le dispositif qui va se déclencher pour attraper l'animal. Ça s'appelle le kakumbi. Il y a aussi une pièce assez léger pour les petits animaux qu'ils appelaient les kachambi. C'est un piège léger, mais ce que j'ai cité avant là, c'est pour des animaux comme le lièvre, les hyènes, ainsi de suite. Mais pour les petits animaux, les rats, tout ça, on utilisait les kachambi, un piège assez simple. Il y a aussi ce qu'on appelle les kio. Les kio, c'est un piège qui est comme une petite maisonnette. Il y a un petit morceau de bois qu'ils mettent en parallèle, de sorte que quand l'animal va passer, va piétiner sur ces morceaux de bois là, et on va déclencher de manière que la lourde charge qui est comme sur cette petite maisonnette-là puisse tomber sur l'animal. C'est cela qu'on appelait le kio. Il y a aussi d'autres comme l'embota. L'embota, c'est un piège à pont, mais on le met non par terre sur le sol, mais en haut pour piéger par exemple les singes qui sont dans les airs. Pour les souris, on utilisait par exemple les katambala. Les katambala, c'est comme un morceau de bois vide. À l'intérieur, c'est vide, de sorte que lorsque la souris va passer, elle sera enlissée dans cet espace vide qui a été laissé. Et c'est ce qu'on appelle les katambala.
À part ces pièges pour les animaux que vous expliquez, comment est-ce qu'on piège les oiseaux?
Mais avant d'en arriver aux oiseaux, il y a aussi les muteo. Les muteo qui est un piège en fer. Ce sont des morceaux de fer qu'ils mettent ensemble et ce sont ces fers-là qui vont caler l'animal. Alors, les oiseaux, on les piégeait aussi par ce qu'on appelle le mouli. Le mouli, c'est une sorte de piège à tiges jumelées. Donc, il y a deux tiges jumelées et sur l'une de ces tiges-là, ils lient quelque chose qu'ils appellent mouito, qu'ils plient. Comme on faisait avec le kakunda, ils plient le mouito et ils lient sur le mouito une ficelle et ils mettent une sorte de disposition là qui fait que l'animal va se poser sur un petit brin d'arbre qu'ils ont mis entre les deux éléments jumelés. C'est comme la lettre Y. Alors, entre les deux bouches là de Y, ils mettent un dispositif de sorte que l'oiseau vienne se poser là-bas. Et quand l'oiseau se pose là, ils ont déjà mis un nœud. Quand l'oiseau s'est posé, le pied se déclenche et l'oiseau sera pris dans ce nœud-là. Le nœud-là, ils appellent le kishole. Il y avait aussi l'engohe pour les oiseaux. L'engohe, ils mettaient le nœud coulant qui n'était pas lié sur un morceau de bois qui va déclencher. Mais quand l'oiseau va passer à un endroit où ils ont mis l'engohe, le nœud coulant, l'oiseau va piétiner là où se trouve le nœud. Et puis, quand il avance, il se sera déjà enlissé parce que le nœud qui est coulant va couler légèrement de sorte qu'il attrape l'oiseau. Alors, il y avait aussi le kaosi. Au lieu d'attraper l'oiseau par cette patte-là, il mettait de sorte que ce nœud coulant attrape l'oiseau au niveau du cou. Quand l'oiseau passe, il a déjà mis la tête dans le nœud En avançant, il est en train de s'enlisser et il se faisait attraper comme cela. Ils utilisaient aussi le boulembo. Le boulembo, c'est une sorte de glu qui colle. Ils mettaient ça là où se posait l'oiseau. Et quand l'oiseau se pose, il se colle et à ce moment-là, on l'attrape. Il y avait aussi d'autres sortes de pièges. Par exemple, le bouhia pour les animaux, ils creusaient un trou. Et il mettait légèrement de feuillage pour que quand l'animal va passer, il ne va pas se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est creusé là-bas. Il passe et directement il tombe dans le trou. C'est cela qu'on appelle le bouya. Il y a une chasse spéciale pour les éléphants. Les éléphants, c'est ce qu'on appelle le boutouma. Et là, c'était très, très dangereux. On n'y allait pas avec n'importe qui. On y allait seulement avec les membres de sa famille.
Vous venez de nous expliquer la chasse au filet, la chasse par poursuite, la chasse au piège. Un mot sur les autres catégories de chasse?
Oui, il y a la chasse au fusil. Et là, c'est une chasse qui est récente.
Oui.
Alors, ils utilisaient aussi le fusil pour aller chasser les singes. Et là, à Massissi-Walikale, il y avait quelque chose qu'on appelle calibre 12. Et c'est cette sorte de fusil qu'ils utilisaient pour chasser les gibiers. Mais peut-être, je vais revenir sur une sorte spéciale de chasse pour les animaux. Les cassis, la chasse aux cassis. Les cassis, c'était une sorte de gourdin, là, mais dans lequel ils mettaient des éléments pour que l'on imite le cri de tel ou de tel animal. On imitait le cri de l'animal, soit d'un oiseau, pour l'appeler et afin de l'attraper. Cette chasse-là, ça s'appelait chasse au cassis. On pouvait l'utiliser pour les animaux comme pour les oiseaux. Pour les oiseaux, ils utilisaient le baoundé, le lance-pierre, Moucheretti. Ils utilisaient ça aussi, c'est connu.
Alors, professeur, on vient de parler des catégories des chasses chez les houndés. Aussi chez les différentes communautés de la région, comme vous l'avez dit. Quels sont les outils qui étaient utilisés par les chasseurs?
L'outil principal du chasseur, c'est la lance. La lance, et il y a plusieurs catégories de lances. Il y a une lance assez allongée. Il y a une lance qui a comme des joues qui gonfle quelque part là. Il y a une lance. Il y a plusieurs catégories de lances. À part la lance, ils utilisaient aussi le couteau et la machette pour dépecer l'animal quand ils l'ont déjà attrapé.
Oui.
Mais il y a d'autres instruments comme le tambour. Lorsqu'il y a une chasse spéciale, les chasseurs utilisaient aussi le tambour. Quand quelqu'un perd le chemin, il ne sait plus retrouver là où se trouvent les autres. Et là, on utilisait le tambour pour l'appeler. Le filet, le boukira, c'est aussi un élément important dans la chasse. Je viens de parler tout à l'heure du cassis. Ce petit élément-là, comme on le fabriquait à partir de la courge. Et là, on vidait cette courge-là, on mettait des éléments qui pourraient imiter le son de tel ou tel animal. Ils utilisaient aussi le kahasha. Le kahasha, c'est un sifflement aérophonique. Ils mettaient deux morceaux de bois ensemble. Et à l'intérieur de ces deux morceaux de bois, ils mettaient une feuille. Et quand ils sifflaient à travers ces morceaux de bois, la feuille-là produisait un bruit qui imitait telle ou telle sorte de son produit par tel ou tel animal. Il y avait aussi le moucheretti, qui est lance-pierre. Il y en a encore qui utilisent ça aujourd'hui, parce que la chasse se pratique encore par moments à certains endroits.
Hey, kakolo shemu ni hire. Ay ni hira bya ben. Hey! Tandika. Era. Amechi matsi umaduma abantu batsimbana mwa mikava. Hey, Yesu. Hey, wambere jumba, wambere jumba.
Wambere jumba, wambere jumba.
Hey, wambere jumba, wambere jumba dada.
Wambere jumba, wambere jumba.
Yesu kidiro ni aderire. Wabushange wabahunde wabere hurugutira bateye nani anabere ikambakwe wabushire mushambatsi emeshe kube wabushire murunganyi mwabatabana nimfundo batamenya kiringoto mwabangu mwanisipika batamenya resitula efulerana na towa na here hari munyofu na ushire wanyofu lae narangire narangire hago shigwa kihuo jumba e Mishamano ya bushenge amukojina dihungwe nigiriro ja mucene amukojina dihungwe nganga hamundiyo bipe mwemfulira girigulie batofana na bachene na bachene bo bahindie irongo chiro donderwa misho wa rubaka irongo wa mwajifunga nyabindunga na banda
C'était un extrait de la chanson Kiumba de l'artiste Fabrice Mofirita, Mwanchalewa Bangoumwa, chanson dans laquelle il parle de l'ingratitude dans la société. Une sélection de notre invité qui reconnaît, lui, l'apport des chasseurs dans nos sociétés ancestrales. Merci à ceux et celles qui viennent de nous rejoindre sur Radio Okapi. Vous écoutez les magazines Identité culturelle. Nous parlons des techniques des chasses chez les Baoundé. Professeur Buto Abalingini, vous venez de nous dire que les tambours étaient utilisés pendant la chasse. Si, par exemple, l'un des membres de l'équipe est perdu, il a perdu les groupes et on essaie d'utiliser les tambours pour l'appeler. À part ça, il y a une communication spéciale pendant la chasse.
En tout cas, les Baoundé, les Banyanga, les Batembo, les gens de la région ici étaient déjà spéciaux dans ce domaine-là. Ils avaient tout un code de communication. Je viens de parler du tambour, mais à côté du tambour, il y avait aussi le mungungu, qui est l'idiophone, un morceau de bois creux sur lequel on peut frapper à l'aide des bâtonnets. On l'utilisait aussi à la place du tambour. Il y avait aussi le ihembie, le corps, avec la corne de la chèvre ou de la vache. Il creusait dedans et il produisait des sons pour communiquer entre eux. Il y avait aussi le sifflement. Parmi les sifflements, il y a ce qu'on appelle le lufundo. Ça, c'est le lufundo qu'ils utilisaient, soit pour appeler le chien. Ils avaient leur façon de dire... Et là, le chien arrive parce qu'il y a une façon de siffler qui appelle le chien.
Si les chasseurs pouvaient appeler leur chien par les sifflements, les chiens, là où il est parti, est-ce qu'ils pouvaient aussi communiquer avec les chasseurs?
Oui, le chien aussi communiquait avec le chasseur. Lorsqu'il a déjà vu la trace de l'animal, le chien crie une fois. Et par intermittence. Mais quand le chien a déjà vu l'animal, il commence à crier plusieurs fois. Et là, le chasseur connaît déjà que le chien est déjà proche de l'animal. À part ça, le chien portait une clochette qu'on appelle ipuo. La clochette là, on attache au cou. Et la façon dont la clochette là est en train de faire des battements donnait aussi des messages au chasseur. Si la clochette est en train de battre avec un rythme très fort là, très accéléré. On sait déjà que le chien est proche de l'animal. Le chasseur pouvait aussi communiquer avec le chien. C'est ce qu'on appelle ikuisa. Alors, le kuisa joue deux rôles. C'est la communication avec le chien, mais aussi la communication avec les autres les chasseurs. Le chien, on kuisa, on est en train de lui donner courage. On encourage le chien par des termes ekuo, hao, ainsi de suite. Et le chien va avec courage. Maintenant, avec les autres, là, on les informe, par exemple, qu'on est à un moment crucial, qu'ils se préparent. Ils ont des termes qu'ils utilisaient pour dire aux autres, attention, c'est le moment où il faut vous mettre en garde. Et ces cris-là ont des noms. Il y a, par exemple, quand on veut débusquer l'animal, comme je disais, on débusque les animaux pour qu'ils aillent s'enlisser dans les filets. Les cris-là qu'on produisait, c'est ce qu'on appelle le bihimbo. Bihimbo. Et lorsque on annonce que on est à telle étape, l'animal est à fui ou bien je viens de voir l'animal, ces cris qu'on produit ce qu'on appelle les l'oukoubia. L'oukoubia, ça vient du verbe ikoubia, crier fort. Mm. Là, on annonce qu'on est à un moment très, très important. Mm. Il y a aussi le bukuisi, à le kuisa. Le kuisa, ce sont les cris de chasse. Comme je disais, on communique avec le chien pour l'encourager. On communique avec les autres pour dire que l'activité continue. Mm. Parce qu'il y a un silence, les gens ne sauront pas que l'activité est en train de se poursuivre. Oui. Alors, il y a ce cri-là qu'on appelle ikuisa.
Vous nous parlez des cris. Vous avez dit au début que vous n'avez pas encore chassé. Mm. Mais vous savez reproduire ces cris que vous nous expliquez.
Oui, oui, je sais reproduire quand même quelques cris. Ou par exemple, un papa, lorsque ça commence, la chasse commence et que l'on arrive à un moment très important, le chasseur répète plusieurs fois. Kuo, kuo, kuo signifie quoi? Wo, ce sont les mapfuo. La chasse, on appelle ça amapfuo. Parce que la clochette que porte le chien, c'est le pfuo. Mm-hmm. Et avec ce symbole-là, c'est le symbole de cette clochette, à le pfuo, mm-hmm. ça représente toute l'activité de la chasse. Mm-hmm. Alors quand le chasseur dit kuo, c'est-à-dire il appelle les gens à se lancer déjà dans l'activité. Kuo, c'est-à-dire ku, signifie sur. Wo, c'est sur les mapfuo. C'est-à-dire entrer dans les mapfuo. Ou bien mettez-vous sur les mapfuo. C'est ce que signifie kuo. Ou bien quand il lance le chien, il dit ouch, ouch, ouch. C'est pour dire au chien, c'est par ici qu'il faut entrer pour poursuivre l'animal. Donc il y a beaucoup de cris comme ça. Si vous lisez le livre, vous pouvez en être édifié.
Oui. Toujours sur la communication pendant la chasse, il y a également des signes que vous avez présentés.
Oui, oui, il y a plusieurs signes. Par exemple, il y a les signes visuels. Mm-hmm. Parmi ces signes visuels, j'ai trouvé qu'il y en a qu'on peut qualifier de dendronymiques, c'est-à-dire qui ont des rapports avec les plantes. Par exemple, si un chasseur est perdu et qu'on rentre, on ne l'a plus retrouvé, on lui montrait le chemin à partir de l'orientation des herbes. On oriente l'herbe de telle manière que quand il viendra là-bas, il saura que les autres sont passés par ici. Alors, il y a aussi la façon dont on plaçait les herbes dans la clochette, hein, dans les pouls. Parce que souvent, les chiens passaient devant, avant tout le monde, avant d'arriver de tous les chasseurs, les chiens est devant. S'ils portent une clochette où il y a des herbes vertes, les gens savent déjà que ils amènent du gibier.
C'est déjà la fête au village.
Oui, mais si les herbes sont sèches, on saura qu'ils n'ont rien à attraper. Il y a aussi le sarclage. Lorsque j'ai attrapé un passage d'un gibier, si je veux me l'approprier, je fais un petit sarclage à côté. Et quand l'autre va venir, il saura que ce passage est déjà choisi. Je ne peux plus, je ne peux plus y mettre mon piège.
Et là, ça montre un peu l'intégrité qu'il y avait. Parce que, par exemple, si quelqu'un a mis les herbes à côté d'un endroit, aujourd'hui, on peut voir que quelqu'un l'a fait et puis on se dit, bon, je dégage ces herbes, moi aussi, je m'approprie les lieux. Mais avant, il y avait cet esprit fort, l'intégrité était vraiment encore au rendez-vous.
Madame Rosalie, je voudrais vraiment insister sur une chose. L'intégrité et le code de la société, c'était la voie pour une société bien harmonisée. Il y avait des codes que l'on ne pouvait pas ne pas suivre. Et là, les gens vivaient en harmonie, les gens se respectaient les uns les autres, les gens respectaient la norme. Quand vous voyez, les herbes ne parlent pas. Ce n'est même pas de l'argent, ce n'est même pas une lettre, ce n'est même pas... Mais les herbes, seulement on les dépose là-bas. Et quelqu'un qui voit, il sait que il y a déjà quelqu'un d'autre qui a choisi ici. Et il respecte. Mais aujourd'hui, c'est la catastrophe. Alors, il y a d'autres signes, les signes instrumentaux. La lance. Quand on retourne de la chasse et que la lance est nue, c'est-à-dire la lance, on n'y a pas enroulé quelque chose, des herbes ou ceci, c'est-à-dire que la chasse a été difficile. Difficile. Mais s'ils mettent, par exemple, des herbes autour de ça, si ce sont des herbes vertes, c'est que la chasse a été bénéfique. S'ils mettent des herbes sèches, c'est qu'ils n'ont rien à attraper.
Professeur Boutoua, dans votre livre, vous parlez également des interdits liés à la chasse.
Oui, il y en a beaucoup. Par exemple, à la veille de la chasse, les relations sexuelles sont prohibées. Vous ne pouvez pas le faire au risque de perdre votre vie là-bas. J'ai posé la question à mon grand-père. Est-ce que ceci est vrai? Il m'a dit, cela est vrai. Mais quand j'ai analysé, il voulait m'amener à découvrir que c'était pour que la personne ne se fatigue pas pendant la chasse. Qu'il vienne avec toute sa vigueur. C'était ça, c'est pourquoi ils interdisaient. La chasse est interdite à un homme dont la femme est grosse. Mais pour lui permettre d'y aller, ils exigent que l'homme porte un morceau d'étoffe de l'habit, même usé de son épouse. Quand j'ai posé la question à mon grand-père, il me dira, s'il porte cette étoffe-là, c'est qu'il est accompagné de son fils, qui ne sera pas chagriné à cause de l'absence de son père. Le premier gibier d'un chien qu'on initie à la chasse n'est ni séché, ni conservé pendant plus d'une journée. La joie doit être partagée avec tout le monde, parce qu'on va me faire découvrir que ce gibier-là qu'on a tué par la première chasse n'était mangé que par les vieillards et les enfants.
Et il devait terminer le tout le même jour.
Si c'est un grand gibier, on allait même le partager avec ceux de notre village. C'est spécial seulement pour les gens qui ne sont pas sexuellement actifs, c'est-à-dire les enfants et les vieillards.
Pourquoi?
Si les gens qui sont sexuellement actifs mangent, ils sont en train d'apporter une mauvaise chance à cet animal-là et qui sera comme ce qu'on appelle là-bas chez les Baound un kihunti, c'est-à-dire le chien qui n'attrape jamais de gibier. C'est pourquoi on interdisait. Il ne faut pas que, quand vous mangez de cet animal-là qu'on a tué, le premier gibier, il ne faut pas faire des relations sexuelles avec votre épouse.
Et pour se rassurer que cela ne va pas arriver, alors on ne donne qu'aux enfants et aux vieux.
C'est cela, justement. C'était des stratèges. Mon grand-père.
Et donc, c'était pour éviter que ces premiers gibiers ne soient pas les derniers, que les chiens puissent continuer encore à chasser.
Oui, c'est cela. Parce que quand les vieillards sont en train de manger, il y avait des mots qu'ils utilisaient pour bénir ces chiens-là. Et chez les Baoundé, on sait que l'enfant est une grande personne pour bénir la famille. Quand on lui donne aussi de ces gibiers-là, c'est pour solliciter sa bénédiction. Il y a d'autres interdits. Par exemple, une chienne qui a mis bas. Lorsqu'elle va chasser pour la première fois, il y avait aussi des cérémonies. Le gibier qu'elle a attrapé était aussi considéré comme un gibier qu'on a eu pour la première chasse. Un autre interdit, le propriétaire des chiens, on l'appelle le mutocho-tocho. Parce que le chien de chasse, c'est qu'on appelle ndocho. Le propriétaire du chien de chasse, on l'appelle mutocho-tocho. Si le mutocho-tocho meurt avant que ce ndocho-là, ce chien de chasse, n'aille sur terrain dans la chasse, il faut le vendre symboliquement. Ce n'est pas que on va le vendre pour du bon, mais c'est symbolique pour lâcher la relation entre ces chiens et leur propriétaire. Parce qu'on pense que les chiens seront toujours chagrinés, ils auront du chagrin parce que leur maître est mort. Alors il faut que l'on puisse les affecter symboliquement à une autre personne. Il y a des gibiers vénérés. Par exemple, si vous tuez un léopard par mégarde, vous tuez un léopard par votre piège. Là, c'est dangereux. Ou bien vous tuez un animal totem. Il y a des totems dans nos communautés. Par exemple, pour moi, c'est le mungembe. C'est une sorte de singe. Comme par mégarde, un mutucha comme moi, il peut tuer...
Mutucha,
c'est mon clan. Tue un mungembe, le singe là, spécial qu'on appelle mungembe. Il ne peut pas entrer dans sa maison sans qu'on ait fait des cérémonies. Il apporte l'animal dans le baraza et le vieux se charge de cet animal. Le vieux parle aux ancêtres pour que la personne qui a commis ce crime puisse être libérée. Donc il est strictement interdit de tuer l'animal totem. Il est strictement interdit de tuer les léopards parce que c'est le totem pour toutes les communautés, des Banyanga, des Baoundé. Là, on les respecte. Il ne faut pas les tuer.
C'est ici que prend fin ce numéro du magazine Identité culturelle sur Radio Okapi. Nous avons parlé des techniques des chasses chez les Baoundé avec le professeur Bouto Abalingene. J'espère que, guidé par notre invité, vous avez fait les voyages en brousse et que vous avez même réussi à pister un gibier. Merci à notre invité. Merci également à vous, auditrices, auditeurs, de nous avoir suivis. Ce magazine a été produit sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Je suis Rosalie Masika-Zawadi. Je vous souhaite de passer des bons moments en compagnie de la Radio de la Paix. Vous pouvez réécouter ces magazines sur notre site, www.radiookapi.net. À très bientôt.